promouvoir l'égalité homme-femme en agriculture et en milieu rural, portraits, débats, reportages et entretiens. Nous partons sur le terrain capter les témoignages et les parcours de vie de ces hommes et de ces femmes qui vivent et respirent la nature. Aujourd'hui, nos campagnes se repeuplent, changeons notre regard. Une série d'émissions soutenues par la région Rhône-Alpes.
Moi, quand je me suis installée, j'ai pas senti de réticence par rapport à mes collègues vignerons du fait que je sois une femme. Après, c'est un métier qui est physique, donc peut-être que toutes les femmes ne pourraient pas le faire parce qu'il faut avoir une condition physique qui le permet. Mais je pense que non, les femmes sont autant capables que les hommes. Je dirais que c'est mes enfants qui se sont adaptés, surtout au départ, pour la partie maman, parce que le plus grand, notamment, je l'emmenais de partout, dans la vigne, sur les foires. Voilà, donc ils vivent dehors la plupart du temps avec moi. Ils vont dans la vigne, ils participent à tout. Quand on est dans la cave, ils viennent dans la cave, ils nous aident. Voilà. Après, c'est juste gérer l'emploi du temps quand il y a l'école. C'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. On a la chance de travailler sur place et d'être près de l'école. C'est pas si compliqué que ça, finalement.
Oui, moi j'ai des exemples d'exploitations qui réussissent bien, que ce soit une activité avec transformation fromagère, vente directe et autres. Elles sont toutes aussi compétentes que les hommes.
On voit déjà un grand changement sur le fait qu'une exploitation, elle vit beaucoup moins longtemps qu'avant. On a des gens qui s'installent, au bout de 10 ans, ils en ont assez, eh bien, ils réfléchissent et ils partent et ils vont faire autre chose, un autre métier. On a beaucoup plus de mouvance et de changement. Ça, c'est assez nouveau. Il faut qu'on s'habitue, parce que les anciens agriculteurs, ils étaient agriculteurs du début jusqu'à leur mort.
Les femmes ont-elles leur place ?
Alors forcément, oui, je crois qu'on le dit peut-être pas assez, mais ça suffit pas de le dire par contre. Mais forcément que c'est un atout, parce que c'est une vue différente, une vue extérieure. Et je crois que le fait que les femmes soient là et la parole aujourd'hui, parce que pendant de nombreuses années, elles n'avaient pas la parole non plus. Mais aujourd'hui, elles savent dire des choses, elles savent reconnaître, elles savent voir les différences avec leurs frères et sœurs, elles savent voir vraiment et le dire. C'est un facteur de progrès, c'est un facteur d'évolution. On l'a vu dans les maisons d'habitation, dans le confort, on l'a vu dans la façon d'aborder le problème des congés, des vacances, même si on bloque un peu sur le problème des moyens, quand même tout ça a évolué.
Tout au long de ces prochains mois sur Couleur FM, nous consacrerons une partie de nos magazines et reportages sur la thématique l'égalité homme-femme en agriculture et en milieu rural, une série d'émissions soutenues par la région Rhône-Alpes. État des lieux aujourd'hui avec Thomas Béal, conseiller territorial des Vals du Dauphiné, animateur du PSADER VDD, et de Terravald à la Chambre d'agriculture de l'Isère. Et puis juste après, nous retrouverons François Blanchu, responsable de la vie institutionnelle pour la MSA. Thomas Béal.
En deux mots, disons qu'une chambre d'agriculture déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un des trois organismes consulaires. Quelquefois on entend ce terme, on a des chambres de métiers et d'artisanat, on a des chambres d'industrie et de commerce, et puis on a des chambres d'agriculture. Donc c'est les trois corps de métiers qu'ont ces organismes-là. Et puis on va dire qu'à la base, on est des organismes de conseil et d'appui technique, historiquement, à ces professions. Donc nous, en tant que chambre d'agriculture, on a ce rôle de conseil et d'appui auprès des agriculteurs. Donc on est toute une équipe technique au service d'élus chambre d'agriculture qui sont élus pour 6 ans. Donc c'est au niveau national. Chaque département a sa chambre d'agriculture, chaque région a aussi sa chambre régionale. On est tout un réseau sur le territoire national. Et donc voilà, depuis janvier 2013, il y a une nouvelle mandature ici pour l'Isère, donc avec un nouveau président qui s'appelle Jean-Claude Darlet et qui met en place avec son équipe, avec son bureau, une politique au service des agriculteurs du département. Et donc plus particulièrement, nous, je fais partie des conseillers de territoire, donc on est des conseillers rattachés à un territoire par définition, donc il y en a une dizaine en Isère, et celui sur lequel j'officie s'appelle les Vals du Dauphiné, donc c'est si on reprend les cantons, c'est le canton de Virieu-sur-Bourbe, le canton de pont de Beauvoisin et le canton de la Tour du Pin où on se trouve aujourd'hui, car on a une antenne de la Chambre d'agriculture sur la Tour du Pin. Donc c'est entre parenthèses aussi une des forces aussi de la Chambre d'agriculture, c'est d'être basé effectivement à Grenoble, mais d'avoir des antennes un peu partout sur le territoire isérois, ce qui rapproche et permet un travail quotidien auprès des agriculteurs. Voilà, c'est ce territoire Val du Dauphiné. Alors, pour faire plus moderne et plus dans l'actualité, c'est les 4 communautés de communes. Voilà, puisque c'est un découpage aussi très important avec lesquels je travaille au quotidien, qui sont donc la communauté de communes des Vallons de la Tour, celle des Vallons du Guiers du côté de Pont de Beauvoisin, celle de la Vallée de Liens et celle de Bourbe-Tisserand. C'est assez large. Hein, il y a une soixantaine de communes. Voilà, Bourbe-Tisserand par exemple, c'est la réunion de deux intercommunalités, deux communautés de communes qui se sont réunies au 1er janvier 2013. Donc on voilà, avec tout un mouvement aussi, hein, on le sent même au niveau national, de rapprochement de ces entités, hein, dans un souci de gestion aussi de l'argent et de structuration de la vie politique publique locale aussi. Hein, voilà. Une chambre d'agriculture intervient sur différents volets très importants. Un des premiers volets, ça peut être l'installation des jeunes agriculteurs et aussi la transmission. Hein, c'est deux thématiques qui vont un peu de pair. Il y a aussi un grand volet sur tout ce qui va être formation des agriculteurs. Donc je disais au tout départ qu'on avait quand même une mission principale de conseil et de suivi, d'accompagnement des agriculteurs qui passe effectivement beaucoup par la formation. Après, on a des services qu'on apporte sur de la technique, que j'allais dire un peu plus technique pure, c'est-à-dire sur des conseils sur les itinéraires techniques, ce qu'on appelle l'agro-environnement, avec une forte volonté justement de cette nouvelle mandature d'axer sur ce que le ministère de l'Agriculture appelle l'agroécologie, qui est quelque chose qui est une tendance ou plutôt un retour un peu à la révolution agronomique, mais en tout cas une vraie volonté d'accompagner justement ces agriculteurs sur ces nouvelles thématiques. Et puis pour citer aussi ce qui moi m'occupe aussi au quotidien, c'est une volonté aussi d'être très présent sur les territoires. Et ça, c'est une particularité de la politique, hein, iséroise en matière d'agriculture. C'est un volet très important et c'est pour ça qu'à la Chambre, donc je pourrais citer tous mes collègues, hein, on est une dizaine, mais c'est vrai qu'on travaille là sur le Nord-Isère beaucoup avec le territoire d'Isère-Porte des Alpes, donc celui, on va dire, de Bourgoin et puis Saint-Jean-de-Bournay, hein, voilà un peu les deux entités. Puis aussi ce qu'on appelle la boucle du Rhône, donc qui sont un peu plus haut les territoires de Crémieux et de Morestel. Et donc on est par exemple tous les trois animateurs basés ici à la Tour du Pin, donc ce qui nous permet aussi de travailler ensemble sur certains projets et d'être sur une entité, de dépasser on va dire la simple entre guillemets entité territoriale à laquelle on est rattaché. L'idée d'un territoire, et c'est bien ça l'intérêt, c'est que c'est une posture, c'est une entrée pour faire du projet, pour être animateur d'un réseau, pour voilà, mais c'est bien quelque chose de fond, et c'est pas quelque chose qui doit nous enfermer, c'est quelque chose qui doit nous permettre justement d'appuyer des projets, de trouver des hommes, des porteurs de projets, puisque un projet ne se fait pas sans porteur. Et puis nous, notre rôle, c'est d'animer ce réseau, d'être là pour apporter aussi des compétences en termes de développement de projets, parce que c'est toute une série de choses à accompagner, à être vigilant sur certains points, à amener justement ces agriculteurs et autres, hein, puisqu'on est les porteurs de projets peuvent être de nature aussi, des élus locaux, ça peut être des associations, ça peut être des groupes en lien avec la thématique agricole et rurale. Voilà, je dirais que c'est le plus important de la posture d'un conseiller de territoire tel qu'elle est définie en Chambre d'agriculture, c'est d'avoir le côté rural, c'est-à-dire côté agricole, mais aussi décloisonné entre guillemets, ouvert à tous ces autres acteurs. Et donc voilà, un travail aussi important auprès des élus, des élus des collectivités, des maires, des collectivités de communautés de communes, comme on disait, mais aussi de la région, hein, qui avec laquelle on travaille énormément. Le PSADER, par exemple, qui est une bête bien étrange, mais qui en fait est un dispositif d'aide de la région très important auprès justement du monde rural et agricole pour aider à mettre sur pied justement ces projets. Comme on s'en doute, hein, le nerf de la guerre, c'est bien sûr l'argent, et le fait de pouvoir flécher de l'argent public sur ce genre de projet, ça aide à les faire émerger, à les sortir, à les mettre en place. Voilà.
Comment monter des projets entre plusieurs territoires en sachant que, par exemple, le territoire des Vals du Dauphiné est différent du territoire Porte des Alpes? C'est certainement pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, le même type d'agriculture.
Oui, vous avez raison sur le fait qu'il y a des agricultures et c'est bien ça l'idée, hein, c'est de toujours mettre ce terme au pluriel parce qu'il revêt différents aspects. Alors, effectivement, Océane Amaury, qui est conseillère territoire sur le territoire d'Isère Porte des Alpes, donc celui qu'on citait tout à l'heure de Bourgoin et Saint-Jean-de-Bournay, en fait, c'est mon homologue sur ce territoire voisin. Donc, on a la même fonction d'animation à la fois du réseau, du territoire et de développement de projet. Je prends ces deux grands axes. Après, c'est vrai qu'au quotidien, ça peut être un peu différent. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a déjà bien brossé le métier. Et donc, effectivement, son territoire, entre guillemets, ou le territoire sur lequel elle officie est différent dans la nature des agricultures qu'on va pouvoir y trouver. Peut-être un territoire plus de plaine, alors que les Vals du Dauphiné, le nom le dit bien, c'est qu'on est sur un territoire vallonné, un territoire d'élevage. Quoi qu'il en soit, effectivement, on a peut-être des différences en termes de techniques agricoles sur certains points, mais il y a des choses qui se recoupent et des besoins qui sont récurrents sur nos territoires et même qu'on pourrait dézoomer et le retrouver sur le département. On pourrait même, sur certaines thématiques, par exemple à l'installation, c'est vrai qu'on fait beaucoup de réseaux avec nos collègues qui, eux, sont spécialisés sur l'installation, transmission des exploitations, mais on met en place des structures avec nos comités de territoire, avec nos partenaires réseau, on met en place des structures, des lieux pour pouvoir en discuter avec par territoire, mais on peut aussi dézoomer et se dire que cette thématique-là d'installation de jeunes agriculteurs, elle est vraie, elle a un sens à beaucoup d'échelles. Alors, c'est toute la difficulté et puis la richesse de cette posture, de cette entrée territoire, c'est que selon le besoin, puisqu'un projet finalement soit vient d'une idée un peu définie, soit vient d'un besoin qu'il faut transformer en idée, en définition, mais voilà, un besoin, une idée, elle peut traduire beaucoup, beaucoup de choses et quelquefois on a des thématiques très proches. Alors, par exemple, en ce moment, on est en train de développer une action un peu coup de poing de collecte des pneumatiques usagés qu'on retrouve quelquefois. Je sais pas, aussi, on les voit dans nos campagnes, hein, sur les silos, donc ces grandes bâches qui permettent un stockage d'ensilage. Alors je rentre un peu dans des termes techniques, mais peu importe, disons que voilà, ces pneumatiques usagées, on est confronté à un problème lorsqu'elles s'usent, puisqu'il y a le soleil, il y a le gel, etc. Et une fois, quand elles sont sur ces bâches, elles s'usent et on va dire qu'en moins d'une dizaine d'années, elles sont plus utilisables. Et donc, il faut s'en débarrasser. Et ça c'est une fois qu'on a dit ça, il y a une vraie réalité derrière, c'est que c'est un coût, hein, un coût d'1,50€, 2€ par pneu, en sachant que sur les exploitations, il y en a en moyenne 1000, on va dire. On traduit tout de suite ça en termes de coût pour le détenteur et on se retrouve confronté à un problème puisque la réglementation oblige le détenteur final à s'en débarrasser à des coûts qui sont aujourd'hui prohibitifs et qui sont bloquants. En tout cas, on va parler comme ça, un bloquant pour déclencher quelque chose. Donc nous, avec Océane et puis aussi Véronique Rochdy, qui est la collègue sur Boucle du Rhône, donc Crémieux-Morestel, on était tous les trois avec la même problématique et même là, pour le coup, on peut dézoomer et aller même au niveau national. Donc l'idée, c'était de réunir nos trois territoires pour en faire un territoire de projet et se dire sur ce grand territoire, sur ce grand Nord-Isère, montons une collecte avec les partenaires publics, donc la région, le conseil général, les intercommunalités, pour essayer de monter une opération coup de poing et d'avoir de laisser, entre guillemets, au détenteur final un coût qui soit raisonnable. Et donc, très clairement, il n'y a rien à cacher, c'est d'essayer d'avoir 80% de subventions, donc d'argent public sur ce coût total, ce qui est la norme, entre guillemets, enfin c'est le maximum sur lequel on peut agir, pour laisser, c'est-à-dire 20% du coût. Donc là, je vous laisse faire les petits calculs, mais ce qui là devenait beaucoup plus raisonnable et qui en tout cas débloquait la situation de l'avis des agriculteurs qu'on a enquêtés et qui permettent de dire on peut monter cette opération et évacuer de manière massive. Hein. On est en train de regarder, mais on est sur 600 tonnes de pneus, hein, sur ce grand territoire. Voilà, d'évacuer d'une opération un peu coup de poing tous ces pneumatiques et puis d'aller aussi lancer un débat un peu plus citoyen sur justement la gestion de ces pneumatiques agricoles et aussi des particuliers. En développant le projet, c'est ça qui est intéressant quand on est en mode projet, j'allais dire, c'est le développement en soi est intéressant puisque les déchetteries, par exemple, les gestionnaires des déchets, sont venus participer à la réflexion et ont exposé eux-mêmes leurs problèmes, ce qui a permis de monter un peu tout ça en, en épingle et puis de monter un projet qui réponde à la fois à un problème immédiat qui était celui des agriculteurs et puis un problème plus de fond, une question plus de société qui est celui des pneus particuliers et de sa gestion. Voilà. Donc c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un exemple de projet croisé sur lequel on va dézoomer d'un territoire de projet sur lequel nous on agit pour essayer de se mettre à plusieurs et puis de le traiter en bonne intelligence entre guillemets, c'est-à-dire un bon territoire de projet, c'est certainement un territoire sur lequel il y a une faisabilité technique, il y a une réalité, c'est-à-dire que là très clairement on a repéré donc 6 sites de collecte sur ce Grand Nord-Isère, donc un territoire sur lequel le transport peut se faire. Il faut être réaliste aussi dans sa réalisation, c'est-à-dire que le jour où il va y avoir la collecte, faut pouvoir l'assurer, le faire, pas que ça dure une éternité. Enfin voilà, faut pouvoir régler tout ça. Et faut surtout pouvoir, ce territoire, il permet de réunir des acteurs qui se sont petit à petit montés en porteurs de projets. Voilà, et ça, c'est ce qui a été le plus intéressant. C'est comme ça qu'on a travaillé, que nous, dans notre rôle, on a accompagné ces gens au point de vue technique, mais aussi sur d'autres aspects, à se saisir de cette problématique et à en porter un projet aux yeux de la région, du Conseil Général et encore d'autres partenaires qui sont les communautés de communes. Voilà.
Alors, vous portez des projets, certes, avec le soutien des collectivités et des institutions, j'en doute pas, mais est-ce que le monde agricole est acteur dans ce parcours-là?
Tout à fait. Donc, je vous reprendrai même en disant qu'on ne porte pas de projet, dans le sens où on accompagne des porteurs de projets. Mais c'est très intéressant, ça me permet justement de le souligner, c'est-à-dire comme je disais il y a quelques instants, un projet n'existe pas sans porteur de projet, sans hommes et femmes qui sont derrière et qui prennent du temps pour le développer, qui prennent du temps pour le défendre. Et parmi ces hommes et ces femmes, il y a, et ça c'est le fond aussi de notre travail, hein, il y a beaucoup d'agriculteurs, d'agricultrices, il y a des élus, c'est, j'allais dire, nos deux publics principaux, même si on voit, hein, il y a d'autres mondes associatifs qui se joignent à nous, les élus et les agriculteurs, agricultrices sont nos principaux publics, on va le dire comme ça. Et c'est vrai qu'au sein du comité de territoire, donc que j'anime aussi, et ça fait partie de ma mission qui m'est confiée par la Chambre d'Agriculture, qui s'appelle Terravalde sur Nouvelle du Dauphiné, mais qui s'appelle par exemple Paturin pour Océane sur Isère-Porte des Alpes, ou encore le comité de territoire BRD pour Boucle du Rhône, et voilà, on continue avec les sigles sur Crémieux-Morestel. Mais voilà, ces comités de territoire, il y en a une dizaine sur l'Isère, comme autant d'animateurs et comme autant de découpages là que j'ai expliqué au départ. Ces comités de territoire, ce sont des associations en fait, loi de 1901, composées d'élus locaux qui viennent siéger, qui ont un collège, on va dire, d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont là aussi, qui ont un collège et je vais dire c'est un peu plus, l'origine est plus agricole, donc c'est vrai que souvent les présidents ou la couleur du bureau est plutôt agricole, mais c'est pas vrai partout, je le dis parce que c'est plus le cas sur notre territoire, mais ça peut être assez différent. En tout cas, on retrouve des élus, des agriculteurs, et puis on a toujours un dernier collège qu'on appelle, mais chez nous c'est par exemple un collège socio-professionnel dans lequel on va retrouver des établissements de formation, par exemple agricole, comme le lycée horticole et animalier de la Tour du Pin, qui est très actif, qui porte un beau projet aussi d'espace test, bon, on n'aura pas le temps d'en parler là, mais c'est un très beau projet aussi, ou aussi le lycée privé du Guier Val-d'Enant du côté de Pont-de-Beauvoisin, enfin voilà, on va retrouver différents acteurs, et l'idée de Terraval, de ces comités, c'est de proposer un lieu et puis un temps, on va dire, une possibilité d'échanger sur des besoins, sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'est vraiment l'intention, c'est un lieu de partage et de recherche de compromis, mais au sein d'actions, au sein de projets, puisque l'important, c'est de traduire tout ça au sein de quelque chose qui va pouvoir participer à la vie du territoire, à la vie économique, à la vie sociale, entre guillemets, hein, parce que j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'avec Terraval, là, on développe un beau projet là qui aura lieu normalement le 30 mai 2015 et qui s'appelle les Assises de la Ruralité. C'est un projet qui est là pour justement proposer aux citoyens du territoire de venir visiter un peu leur territoire. On va proposer des visites un peu thématiques. Et puis le soir, donc sur une après-midi, et le soir se retrouver au château de Virieux, avec un système de cars. Enfin voilà, les cars partiront du château, reviendront au château. Et puis le soir, proposer une table ronde avec des personnalités du territoire, économiques, de développement, des entrepreneurs, des agriculteurs et encore d'autres personnes, d'autres acteurs qui font cette ruralité, et de s'interroger un peu ensemble sur ce que c'est finalement de cette ruralité. Est-ce que le territoire des Vals du Dauphiné est encore rural, ou s'il l'est, de quelle manière? Et puis surtout d'essayer de traduire ça en, comme je vous disais aussi, en action, de dire, une fois qu'on a dit tout ça, comment moi en tant qu'élu, moi en tant qu'agriculteur, moi en tant que citoyen, je peux repartir de ce moment-là en ayant pris conscience qu'on avait peut-être un, je vais utiliser des mots un peu pompeux, mais peut-être un objet commun, quelque chose qui nous rassemble, qui est ce territoire, qui est cette ruralité. Voilà, en tout cas d'essayer de mettre des mots et des choses concrètes sur des notions, des thématiques qu'on entend, et avec cette volonté, et ça reprend vraiment les objectifs de ce comité, avec la volonté de mettre ensemble les gens et créer du lien. Ça, c'est une des premiers objectifs du comité, et puis ça se traduit sur beaucoup de choses, hein. On fait régulièrement des visites de fermes pour les élus, c'est-à-dire pour à chaque fois les accompagner dans les fermes, leur faire toucher du doigt aussi les réalités agricoles, hein, parce qu'elles changent vite aussi, les élus changent aussi. On parle souvent de monde agricole, donc dans un monde, il y a souvent toutes ces composantes, et il faut aussi pouvoir les expliquer, il faut aussi pouvoir les montrer. Et ce comité a, comme les autres, hein, ont aussi cette volonté-là de partager, de montrer un peu ce qui peut se faire dans le milieu agricole. Et donc ces assises de la ruralité, par exemple, sont voilà, ce sont une action un peu forte là-dessus. On en a fait quelques-unes qui ont eu un certain succès, donc on voulait continuer à proposer ça aux citoyens, aux élus, à tous les acteurs, à toutes les personnes qui agissent sur le territoire. Voilà. C'est vrai que c'est très hétérogène, dans le sens où, je pense comme dans certains autres métiers, on a une moyenne d'âge qui est plutôt vieillissante, et avec quand même, et là je parle pour le territoire que j'anime, celui des Vals du Dauphiné, avec des jeunes, beaucoup d'installations, des jeunes qui s'installent, mais pas que des jeunes aussi qu'on voit au travers de projets, qui se bougent autour de choses qui les intéressent, qui montent des animations pour expliquer aux gens leur métier, par exemple sur toute une animation sur le lait qui a eu lieu là cet été, qui était très intéressante, qui était à l'intention du grand public, pour expliquer un peu leur métier d'éleveur. L'idée, c'était de partir du frigo et de remonter à la source, donc partir du fromage par exemple et remonter au lait, comment on le fait, qu'est-ce que c'est que faire son lait, transformer son lait à la ferme, ou qu'est-ce que c'est de travailler avec des coopératives laitières qui sont des structures que les agriculteurs ont montées. Donc voilà, il y a des jeunes, il y a des problématiques aussi de, et ça c'est vrai sur, j'allais dire là encore une fois, c'est une problématique qu'on peut complètement dézoomer, c'est celle de l'accès au foncier. Donc là on est sur des choses très concrète, c'est-à-dire que un jeune agriculteur, pour l'installer, il faut du terrain, hein, faut du terrain, des bâtiments, et disons qu'on est dans des milieux, dans des zones où il y a beaucoup, beaucoup de pression sur le foncier, hein, voilà, c'est un terme assez connu, de pression foncière, mais c'est ça concrètement. Ça veut dire que quand un jeune va vouloir s'installer, on va avoir très peu de choix pour lui trouver. Alors lui trouver, là, je regarde entre guillemets mes collègues de l'installation, voire de la transmission d'exploitation, ils font un travail de fourmi pour essayer de mettre en lien justement déjà par exemple des gens qu'on appelle cédants, donc des personnes qui vont vers la retraite, avec des personnes qui plus jeunes qui veulent eux s'installer. Voilà, il y a tout un travail que la chambre fait à ce niveau-là pour mettre en lien les personnes, hein. Il y a un répertoire, par exemple un outil très concret qui est un répertoire départ installation, ça s'appelle RDI, voilà, encore un nouveau sigle, mais qui est un outil très concret pour mettre en lien justement ces différentes demandes, à la fois d'un cédant qui voudrait justement pouvoir transmettre son exploitation, à défaut, voilà, quand il fait appel souvent à nos services, c'est qu'il n'y a pas eu de personnes repérées dans la famille, ou voilà, c'est dans ces cas-là, hein, où ce qu'on appelle les installations hors cadre familial. Donc ça, c'est des installations de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, mais qui ont tout à fait la volonté de s'y installer. On peut dire qu'il y en a de plus en plus, même si je serais prudent sur les chiffres parce que je les maîtrise moins bien, mais en tout cas, on voit fleurir, c'est vrai, des projets. Alors souvent, ça rejoint un peu ce qu'on disait là juste avant, sur peu de de surface, sur peu de foncier, parce que l'accès est difficile, mais on va retrouver justement des projets de maraîchage, par exemple, qui, sur 2-3 hectares, selon les façons de cultiver, c'est-à-dire s'ils se concentrent sur 2, 3, 4, 5 familles de légumes et pas 40, c'est un modèle qui peut tout à fait être viable. Et ça, c'est vrai qu'on en voit, fleurir quelques-uns sur voilà, ce type d'installation qui sont des personnes qui ne sont pas issues du milieu, mais qui vont se former, notamment la Chambre, mais d'autres acteurs, hein, la Dabio pour les producteurs en bio et d'autres acteurs encore régionaux peuvent agir aux côtés de ces personnes-là pour les accompagner sur de la technique, sur sur toucher du doigt aussi toutes les réalités du métier qui sont parfois dures. Il y a comme tous les métiers, mais celui-là peut-être encore plus, avec des réglementations qui sont pas faciles à appréhender. Ça évolue sans cesse et c'est vrai que ça, je reprends un peu les mots des agriculteurs que je côtoie, mais c'est une pression qui est un peu invisible. C'est-à-dire que à la limite, ils sont sûrs de ne pas être bons, on va dire quelque part, étant donné qu'il y a tellement de réglementations. Et pourtant, je travaille avec des personnes qui sont des professionnels. Qui connaissent les réglementations cadres, etc., mais ils ont toujours ce doute d'avoir oublié un alinéa et d'être pris là-dessus. Donc, je caricaturise un peu, mais pour forcer un peu le trait et dire qu'il y a une vraie pression un peu invisible, une vraie épée de Damoclès au-dessus de leur tête qu'il faut prendre en compte dans la gestion du métier au quotidien et qui est des fois pas facile. Hein, voilà, souvent ils risquent. Alors c'est là on va rentrer sur des choses un peu systémiques. En tout cas, le modèle agricole français, c'est-à-dire que vous n'êtes pas. En tout cas, il y a des fortes aides de l'Europe, hein, on appelle la politique agricole commune, la PAC, qui d'ailleurs change à partir du 1er janvier 2015 dans une nouvelle mouture. Mais quoi qu'il en soit, l'agriculture française est subventionnée entre guillemets par l'Europe. Tous les pays européens fonctionnent sur ce modèle-là. Et c'est vrai que la sanction va par exemple porter sur le taux de subvention et finalement de rémunération de l'exploitation. Il faut savoir que les primes ou subventions, alors je rentrerai, il faudrait du temps pour rentrer dans les détails, mais disons que ces primes et subventions ont été mises en place pour soutenir les marchés une fois que le marché était ouvert au niveau mondial et pour pouvoir soutenir les marchés et pouvoir payer les productions au prix de leur juste charge. Donc et très clairement, je vais dire ça très simplement, mais aujourd'hui le montant de ces subventions, de ces primes PAC représente le chiffre d'affaires ou en tout cas la part rémunératrice du métier d'agriculteur. Et ça, une fois dit comme ça, c'est vrai que ça pose de manière éthique et fondamentale de sacrées questions. Il y a des difficultés à rémunérer le travail agricole à sa juste valeur aujourd'hui. Et c'est vrai que tous ces projets qu'on voit fleurir et on en accompagne aussi autour de paniers de produits, de restauration collective, de circuits courts, d'économie circulaire, on entend tous ces termes-là. On y travaille énormément et aussi au sein de la Chambre d'agriculture pour essayer justement de finalement réinjecter ou en tout cas de ne pas diluer la valeur ajoutée du travail des agriculteurs et de leur production. Pour produire, il y a un coût, il y a une charge. Hein, les agriculteurs, je le dis souvent, mais sont en premier lieu des entrepreneurs, donc ont une posture d'entrepreneur, de professionnel. Et il faut bien que les charges soient couvertes par des produits, hein, pour faire très, très basique. Et aujourd'hui, c'est vrai que les produits sont liés à un système, une mise en marché, donc un système économique qui est extrêmement complexe, extrêmement démultiplié. Et c'est vrai que sur les territoires, et c'est une fois de plus la force de cette entrée territoire, c'est que si on réfléchit territoire, on peut peut-être mettre en place des circuits plus locaux et essayer de valoriser les productions et donc, et de manière très simple et économiquement de garder la valeur ajoutée sur les exploitations. Voilà, ça c'est très important et ça a été un des grands axes de la politique de la Chambre quand le mandat a été pris par Jean-Claude Darlet en janvier 2013. Et c'est vrai que toutes les équipes s'affairent aussi dans cet esprit-là, on va dire, hein, sans que ce soit un mot d'ordre au quotidien, mais c'est un esprit qu'il faut avoir. Et c'est vrai que du coup, on accompagne quand même beaucoup de projets qui ont ce trait-là, qui ont cette force-là.
C'est un chef d'entreprise, l'agriculteur. J'ai l'impression quand même qu'il passe beaucoup de temps derrière son bureau, non, maintenant.
Alors c'est vrai que le métier a extrêmement changé et change beaucoup. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'un agriculteur, il va passer, alors bon, c'est très variable, hein, les chiffres, faut les prendre avec des pincettes, mais c'est vrai que ils vont passer un jour et demi, voire deux jours par semaine, hein, consacrés juste à l'administratif. Ils bossent le dimanche, les week-ends n'existent pas. Par exemple, pour les éleveurs, qui sont très nombreux sur le territoire des Vals du Dauphiné, il y a les deux traites, hein, donc deux astreintes dans la journée, c'est-à-dire une première à 8h le matin et puis une seconde à 18h, 18h30 le soir, donc tous les jours de l'année. Mais voilà, avec aussi des choses qui s'organisent comme par exemple le service de remplacement ou des structures voilà qui permettent aux agriculteurs de se grouper ou de faire appel à un salarié qu'ils vont embaucher à plusieurs pour pouvoir pallier, leur libérer une journée par exemple. Et notamment, les méthodes changent, et notamment sur l'administratif. C'est voilà. Et le métier change, bah voilà, le monde rural change en lui-même, hein. C'est aussi la volonté par ces assises de la ruralité de vouloir se reposer la question, mais le monde rural change et donc en soi le rôle et l'image de l'agriculteur change aussi. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, et en tout cas avec le comité de territoire, on travaille finalement beaucoup là-dessus, mais il y a une vraie volonté de montrer ce qui est fait, de l'expliquer. Et finalement, j'allais dire de communiquer, chose que le monde agricole a finalement peu fait ces derniers temps, enfin, ou depuis quelques années. Et ces derniers temps, il y a une vraie volonté d'expliquer simplement les choses et de montrer ce qu'est le métier. Et donc voilà. Donc c'est vrai que le métier d'agriculteur, il se partage entre, c'est un chef d'entreprise, mais donc il doit être aussi très technique et se former aussi, puisque la technique change. Il doit être très bon en administratif aussi, très bon en économie et rendre de multiples services que le monde rural, qui sont ancrés dans le monde rural, mais aujourd'hui, voilà, comment on fait l'amalgame de tout ça, comment l'agriculteur s'y retrouve, et puis bah pour reprendre un peu ce qu'on disait avant, hein, quand on voit les questions fondamentales qui sont posées par exemple la rémunération du métier, bon voilà, on sent qu'il y a des choses un peu de fond là-dessous, qu'il faut continuer en permanence de travailler. On est toute une équipe technique pour accompagner ces changements, accompagner ces mutations, et d'essayer de conserver nos territoires, et puis le métier d'agriculteur, dans son essence, après dans sa forme, il change, c'est sûr. Voilà.
Alors, bien évidemment, il y aurait d'autres sujets à balayer, forcément à creuser. Alors, on ne va pas tout dire dans cette première émission. Moi, j'invite bien sûr, hein, le monde agricole à frapper à la porte de la Chambre d'agriculture. L'antenne est à la Tour du Pin, ou encore s'adresser aux associations ressources, hein, de chaque territoire. On va rappeler quand même quelques noms.
Les deux comités de territoire, donc celui pour les Vals du Dauphiné s'appelle Terravalde, et celui pour Isère-Port-des-Alpes s'appelle Paturin. Et tous les deux, alors c'est petit clin d'œil, mais tous les deux sont hébergés à la maison des agriculteurs, hein, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est la maison, voilà, chaque agriculteur peut pousser la porte, et d'ailleurs beaucoup d'entre eux le font, donc on est à la Tour du Pin, on est sur le Champ de Mars, cette place du Champ de Mars, et c'est une des antennes de la Chambre d'agriculture, hein, la Chambre en tant que telle, les plus gros bâtiments sont à Grenoble, mais il y a différentes antennes aussi à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard, à Lamure, à Châtes, donc on est présent sur tout le département, et le but, et je pense la grande force aussi de la Chambre et des chambres d'agriculture, c'est de pouvoir être présent en local. Et finalement, ça répond aussi à cette thématique de conseil territorial et de métiers en lien vraiment avec les territoires. C'est cette volonté d'être au plus près des hommes, des femmes et au plus près de l'action. Voilà.
La suite de votre entretien dans quelques instants.
Kebansiala, ne kebansiala, kebansiala, we ne koni kebansiala, kebansiala, ne kebansiala, kebansiala, we ne koni kebansiala. Bajili vajili, geli aesia. Bajili vajili, geli ya konisia. Bajili vajili, geli ya konisia. Aya chonga kere, aya chonga geli ya nike. Aya chonga kere, maya chonga geli ya nike. Bachuru ira mama nene nene. Aya chonga jeli anike, alimande me woro baba churu. Aya chonga jeli anike, siriki deme furu muso bachuru. Aya chonga jeli anike, mina kande me mama nene nene. Aya chonga jeli anike, lamini deme woro baata. Aya chonga jeli anike. Nye bude me furu muso ata aya chonga jeli anike oro ya dumbara tinya keba mi bolola yole kame
na kili kili ya yikuna kule moro ya dumbara chinyo muso mi bolola yole kame na kili kili ya yikuna kule kibansi ala ne kibansi ya kibansi ala wine koni kibansi ya. Dumbara chinyo keba mi bolola yole kamena chili ya ikuna oroya dumbara chinyo muso mi bolola yole kamena chili ya ikuna ibansiala neje bansiala ibansiala. Vine con i chebansia, bajeli bajeli, jeli aesia. Ne bajeli bajeli, jeli a con i esia. Aya chonga kebi, aya chonga jeli a niki. Aya chonga kebi, aya chonga jeli a niki. Qui ma che vedo, aya venga jeli a niki.
Promouvoir l'égalité homme-femme en agriculture et en milieu rural, portraits, débats, reportages et entretiens. Nous partons sur le terrain capter les témoignages et les parcours de vie de ces hommes et de ces femmes qui vivent et respirent la nature. Aujourd'hui, nos campagnes se repeuplent, changeons notre regard. Une série d'émissions soutenues par la région Rhône-Alpes. Pour la première fois depuis sa création en 1945, la Mutualité sociale agricole a ouvert et passé en revue l'intégralité de ses archives photographiques pour les rassembler au sein d'une exposition. Cette exposition a parcouru la France entière il y a quelques semaines, l'occasion pour nous de balayer les moments les plus importants et les grandes avancées sociales qui ont marqué le monde agricole depuis 60 ans. François Blanchu est responsable de la vie institutionnelle pour la MSA.
L'histoire de la protection sociale pour le monde agricole s'étale depuis l'après-guerre et s'est construit au fil des années à un rythme qui lui est propre pour arriver aujourd'hui à un dispositif presque, je dis bien presque, conforme à la protection sociale des autres régimes. Donc les grandes étapes, bien sûr, sont celles de la mise en place de l'assurance maladie dans les années 60. C'est construit au fil de l'eau pour le régime des non-salariés, c'est-à-dire les exploitants agricoles, et le régime des salariés agricoles, la protection sociale avec la mise en place des accidents du travail, d'abord pour les salariés dans les années 70, puis pour les exploitants agricoles, et c'est finalement terminé pour les grandes avancées avec la mise en place des indemnités journalières maladie en 2014, pour les non-salariés agricoles, puisque c'est une des particularités du régime des non-salariés, des exploitants. Ils n'avaient pas un régime obligatoire d'indemnité journalière maladie jusqu'à présent. Alors, bien évidemment que les choses ne se sont pas faites facilement. Tout ça a pris beaucoup de temps, mais c'est effectivement là qu'on mesure le poids important du réseau d'élus MSA, son caractère mutualiste et la force de son réseau de milliers d'élus locaux, de délégués locaux, des conseillers d'administration des différentes caisses, donc de l'ensemble de la profession qui a œuvré pendant toutes ces années pour obtenir ce qui n'était finalement que des droits légitimes, qui étaient d'ailleurs pour certains déjà obtenus par d'autres catégories professionnelles. Donc là, ça a été effectivement, et ça reste toujours, même si aujourd'hui le chemin est presque abouti, ça a été pendant toutes ces années la force des élus et de la profession agricole de discuter avec les pouvoirs publics pour obtenir ces droits, qui étaient des droits, bien sûr, qui leur donnaient accès à des prestations, mais qui, bien évidemment, parallèlement, entraînaient des devoirs, qui étaient de payer les cotisations qui permettaient d'avoir ces droits. Et donc là, évidemment, des débats en interne, dans la profession, pour équilibrer entre le poids des cotisations, qui pèse, bien sûr, hein, sur les exploitants et pour dans l'entreprise, et puis les droits aux prestations qui est associé, hein, et qui permet aussi de bénéficier d'indemnités journalières en cas de maladie, en cas d'accident du travail, comme toute profession.
Stéphanie Loup, viticultrice, exploitante du Loup des Vignes à Saint-Savin.
Quand j'étais enceinte, ce que je déplorais, c'est qu'il n'y ait pas vraiment d'aide pour les congés maternité. J'ai pas connu ça, moi. Ça n'existe pas. Quand on est malade, ça a un peu progressé. Dernièrement, j'ai eu un arrêt maladie et là, ça a bien, quand même plutôt été bien pris en charge, on va dire. Enfin, parce que j'ai également une assurance complémentaire santé en plus. Hein, si c'était que la MSA, ça suffirait pas. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à faire là-dessus. Ouais. Considérer la vie de maman et la vie d'agricultrice, voilà. Mais sinon, c'est beaucoup des coups de main de la famille et des amis encore qui viennent quand je dois aller à une réunion et qu'il faut me garder les enfants, qu'il faut garder le caveau parce que le caveau est ouvert quasiment tous les jours. Donc voilà, là, il y a la famille qui est présente.
Si j'étais à refaire, vous le referiez ?
Oui. L'installation, ça a été... on a eu quelques années difficiles. Maintenant qu'on voit le bout du remboursement des emprunts, on se dit que oui, on referait. Il y a quelques années en arrière, je ne sais pas si j'aurais dit ça.
Il manque un certain nombre de mises à niveau de certaines prestations. En particulier, j'ai parlé tout à l'heure de l'assurance maladie. Eh bien, effectivement, les cotisations et les prestations indemnités journalières au titre de la maladie restent aujourd'hui d'un niveau assez faible, hein, qui ne permettent pas, finalement, de compenser l'absence de revenus liés à la période de maladie. Il y a aussi à améliorer le champ de l'invalidité, où aujourd'hui, un exploitant agricole en invalidité a une pension d'invalidité qui est très inférieure à son collègue salarié, par exemple. Et puis, bien sûr, il reste encore, la presse en fait état régulièrement, des progrès à faire sur les petites retraites, puisqu'on a encore une génération de retraités agriculteurs qui ont des retraites très faibles.
Il faut être polyvalent, on n'a pas le choix. Oui. Quand on est passionné par ce métier, voilà, ça motive aussi. C'est un métier multifacette, on fait beaucoup de choses, jamais la même chose d'un jour sur l'autre, on va dire. Donc là, cette période en hiver, on fait la taille de la vigne, on remplace les piquets, on l'entretien du palissage. Après, il y a le travail dans la cave, donc la mise en bouteille, l'étiquetage, etc. Vu qu'on vend énormément en vente directe, c'est la réception des clients, voilà, un peu de commercial, plus la comptabilité. Puis après, au fil des saisons, les travaux changent. Hein. Après la taille, on va commencer le palissage, le relevage, les bourgeonnages, les traitements pour protéger contre les maladies. Après, ça sera les vendanges. Puis après, un peu après les vendanges, on est un peu plus en repos au niveau du travail de la vigne jusqu'à l'hiver. Et puis dans la cave, tout au long de l'année, il y a des travaux, hein, que ce soit la mise en bouteille, l'étiquetage, comme je vous disais.
Vous avez combien de métiers finalement à votre actif ?
Je ne les ai jamais comptés, mais il faudrait que je le fasse un jour. Et...
Le monde agricole a vécu ces dernières années une évolution démographique extrêmement importante. Hein. Tout le monde le sait, le nombre d'agriculteurs diminue, les exploitations augmentent en taille, changent d'organisation avec de plus en plus de sociétés, de groupements. Tout ça évolue naturellement, mais effectivement aujourd'hui on a une population agricole qui devient minoritaire dans la population française, même si l'agriculture occupe encore une très grande place au plan du territoire, hein, puisque c'est bien les agriculteurs qui travaillent ce territoire et ces terrains. Donc, économiquement, l'agriculteur a encore un poids extrêmement important dans l'économie de notre pays, hein, même si ses actifs sont en forte diminution. On a dans nos effectifs aujourd'hui, pour les non-salariés en particulier, une majorité de nos adhérents qui sont des retraités aujourd'hui. Alors les jeunes, bien sûr, il y a toujours de l'installation en agriculture. Hein. L'installation en agriculture, c'est s'installer à la tête d'une entreprise, que ce soit une entreprise familiale ou une entreprise qu'on reprend, hein, quand on n'est pas issu du régime du milieu agricole. Donc bien sûr, il y a toujours des installations, il y a toujours une dynamique très forte d'installation de jeunes en agriculture et des jeunes hommes comme des jeunes femmes. Hein. On a un certain nombre de femmes qui sont chefs d'exploitation et on peut dire là que l'égalité n'existe pas forcément en chiffres, mais une exploitation qui est pilotée par un homme ou par une femme, là il n'y a aucune différence, sinon les différences inhérentes à la vie de chacun et aux contraintes de chacun des sexes. Aujourd'hui, ce qui est constaté effectivement, c'est que nombre de couples, chacun garde sa profession. Hein. Alors on a bien sûr des couples où les deux sont co-exploitants, ou membres du même GAEC, du même groupement. Et puis, souvent, lorsque un agriculteur, ou d'ailleurs une agricultrice, vit avec une personne qui a un autre métier, le conjoint, dans de nombreux cas, garde son métier. On n'épouse pas obligatoirement un agriculteur et son métier. Alors, une forme idéale, je ne crois pas, ça serait trop simple. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que il y a surtout une forme qui doit être adaptée à la fois à la production et au contexte dans lequel s'installe l'entreprise agricole. Ces dernières années, on a vu beaucoup d'installations sous forme de groupements ou de sociétés. Hein. Ça permet effectivement de gérer une structure bien plus importante et puis surtout d'avoir des conditions de travail un peu moins difficiles par le partage des tâches, par les relais qui peuvent être pris. Mais il y a encore un certain nombre d'agriculteurs qui s'installent en individuel, hein, sur des petites structures pour des productions spécialisées. Donc il n'y a pas de modèle idéal, il y a surtout des modèles bien construits et bien adaptés.
Les agriculteurs, les exploitants doivent être acteurs dans chaque projet, dans chaque dossier, oui, dans leur entreprise aussi, parce que c'est une entreprise, hein, finalement.
C'est une entreprise, tout voilà. À fait. Absolument. Au travers de notre réseau de délégués, on les implique dans nos actions, on les implique sur la nécessité qu'ils ont de relayer aussi les politiques développées par les différentes organisations, la MSA et d'autres, et on les implique, nous, dans les actions que la caisse de MSA développe, hein, des actions collectives, hein, que ce soit dans le domaine de la prévention santé quand on agit pour les retraités ou quand on intervient dans des politiques d'accompagnement d'agriculteurs fragiles ou en difficulté. Et puis on les implique aussi dans ce réseau de vigilance qui permet effectivement de signaler, de faire remonter la situation d'une personne qui se trouverait en grande difficulté pour que effectivement les différents réseaux agricoles et les institutions telles que la MSA puissent proposer à ces personnes des services ou l'accompagnement nécessaire. C'est à ce titre-là d'ailleurs qu'a été mis en place un réseau d'écoute par rapport à la problématique bien difficile et bien réelle, hélas, en agriculture du suicide. Mmh. Hein, donc là aussi, on sait que dans ces moments-là, la personne est très isolée. Et c'est au travers de ce réseau qu'on peut avoir la chance de l'approcher et de lui proposer l'intervention d'un tiers qui va rompre cet isolement et rompre éventuellement la mécanique infernale qui porte parfois vers le geste ultime.
Les exploitants en détresse au bord du suicide sont nombreux ?
Alors, ils sont nombreux, oui, ils sont toujours trop nombreux. Hein, chaque année, dans cette profession, on déplorons un certain nombre de gestes de suicide ou de non aboutis. Hein, donc le risque suicidaire, c'est quelque chose qu'on regarde très près. C'est pour ça qu'on a mis en place un réseau de vigilance avec des personnes qui sont formées à repérer ce risque, hein, pour pouvoir intervenir le plus tôt possible et éviter le pire. Bien évidemment, difficile, comme pour tout métier, qu'on soit artisan, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit agriculteur, effectivement, c'est un métier extrêmement prenant, c'est un métier où on ne compte pas son temps. C'est un métier qui a des contraintes majeures, surtout dans nos départements d'élevage. Hein, les animaux ne s'arrêtent pas comme on arrête une machine. Donc la vie de famille, bien sûr, doit être organisée autour de cette contrainte-là. Et cette contrainte, bien sûr, elle doit être partagée. Hein, elle doit aussi être accompagnée. Et c'est là où nous, MSA, on peut accompagner dans un certain nombre de situations les agriculteurs pour, par exemple, faciliter leur départ en vacances en finançant des services de remplacement pour justement que cette famille puisse vivre le plus possible comme une famille ordinaire, en prenant des vacances, en prenant des repos, même si effectivement l'agriculteur a des contraintes tout à fait importantes et particulières dans ce domaine.
Effectivement, hein, la MSA est là pour guider, accompagner aussi les exploitants en difficulté face à la crise. Est-ce que vous avez de plus en plus d'appels à l'aide ?
Absolument, oui. Ça fait partie des missions de la Mutualité Sociale Agricole, qui est d'accompagner alors tous les agriculteurs et les salariés agricoles, mais aussi tous ceux de nos adhérents qui rencontrent des difficultés. Et s'agissant des exploitants agricoles, nous avons mis en place un certain nombre de démarches et de dispositifs pour à la fois être le plus en amont des difficultés, pour pouvoir prévenir ces difficultés, et puis lorsqu'elles sont détectées, de leur proposer un accompagnement par l'intermédiaire de nos services, en particulier de notre service social, mais aussi en mettant en œuvre des dispositifs en collaboration avec des partenaires tels que la Chambre d'agriculture, le Conseil général, pour pouvoir accompagner ces agriculteurs qui vivent un moment difficile au plan socio-économique. La MSA a depuis de très très nombreuses années un service social. C'est une tradition bien ancrée à la MSA d'avoir ce service qui vient apporter une aide particulière et accompagner nos adhérents dans différentes phases de leur vie. Hein. Et c'est vrai que ça reste un élément important de la politique développée par chaque caisse de MSA avec les particularités adaptées à chaque région, hein, puisque évidemment les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes dans une région de montagne comme la nôtre ou dans des régions de plaine de la région parisienne.
Voilà, vous avez peut-être devancé aussi ma prochaine question. Qu'en est-il de la région Rhône-Alpes, puisque nous avons un territoire qui se porte bien malgré tout ?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question dans l'absolu, bien évidemment, puisqu'on va forcément faire des comparaisons avec d'autres secteurs. Aussi, une particularité de l'agriculture, c'est que c'est une activité qui subit des aléas à la fois conjoncturels, économiques, climatiques. Hein. On peut dire que globalement, dans nos trois départements, dans cette région Rhône-Alpes, la situation n'est pas, ces dernières années, une situation trop difficile. Elle est difficile pour certaines professions à certains moments. Hein. On a eu la crise viticole, on a eu début des années 2000 des sécheresses très importantes qui ont entraîné de grosses difficultés qui peuvent durer. On a eu des crises au niveau du lait dans certains de nos départements. En 2014, il y a eu des difficultés qui perdurent encore par rapport à des productions légumières, par exemple, en lien avec des événements internationaux. Donc, on a une grande diversité, ne serait-ce que si on raisonne dans la région Rhône-Alpes, une très grande diversité, qui fait qu'on ne peut pas parler de difficultés générales, mais plutôt de difficultés conjoncturelles ou structurelles dans certaines filières. il y a un gros enjeu effectivement pour l'agriculture de retrouver plus de proximité. Il y a une demande au niveau de la population. Ce n'est pas bien sûr la panacée, puisqu'il y aura toujours besoin d'exploitations importantes pour des productions qui sont aussi vouées à l'exportation. Donc c'est important de garder cette force économique-là. Mais l'agriculture de proximité, les circuits courts sont des solutions qui sont attendues par beaucoup de nos concitoyens et qui peuvent aussi répondre à un certain nombre de besoins des agriculteurs de mieux valoriser leur production pour aller vers des productions de qualité et correspondant bien aux besoins des consommateurs.
Est-ce que aussi les exploitants agricoles s'investissent dans la vie de leur commune ? Il y a quelques années en arrière, il y avait régulièrement un exploitant maire de sa commune ou qui s'investissait dans le conseil municipal. C'est toujours le cas ou pas ?
Alors c'est probablement moins le cas qu'à une certaine époque, mais c'est lié à la démographie de la population. Pour autant, aujourd'hui, l'agriculteur, il reste très investi au niveau local, très investi au niveau de sa commune ou des regroupements de communes. Il est très investi aussi, bien sûr, dans toutes les organisations professionnelles, dans les groupements, puisque la profession agricole est une profession où il y a toujours eu une culture du collectif. Donc cette culture de l'investissement local, elle reste quand même très forte, bien sûr, adaptée au poids démographique d'aujourd'hui.
Comment vous envisagez l'avenir ? Allez, si vous aviez une baguette magique.
Oula, une baguette magique ? C'est bien difficile. Je crois que le domaine de l'agriculture est un domaine tellement complexe qu'il faudrait beaucoup de baguettes magiques pour régler les problèmes structurels, les problèmes économiques. L'agriculture, elle est aujourd'hui à la fois sur le terrain et à la fois dans la mondialisation. Donc elle est soumise à des aléas extrêmement nombreux et que le monde idéal n'existant pas, je crois qu'il faut surtout que les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour que l'agriculteur qui a fait ce choix, qui est dans ce métier, qui souvent est pour lui un métier qu'il aime beaucoup, dans lequel il s'investisse beaucoup, mais que nos pouvoirs publics mettent en place tout ce qui peut permettre à cet agriculteur de fonctionner dans les meilleures conditions possibles.
Dans cette première émission, promouvoir l'égalité hommes-femmes en agriculture et en milieu rural, Stéphanie Loup, viticultrice, exploitante du Loup des Vignes à Saint-Savin. Bien sûr, nous aurons le plaisir de la retrouver un petit peu plus tard dans cette série d'émissions. Rappelons que le domaine est situé sur les coteaux de la Raymonde, au cœur du village de Saint-Savin. Il produit toute une gamme de vins conviviaux idéaux pour l'apéritif ou à partager au cours d'un repas. Davantage d'infos sur domaine-du-loup-des-vignes.com. Également, dans notre émission aujourd'hui, Thomas Béal, conseiller territorial des Vals du Dauphiné, animateur du PSADER VDD et de TerraVald à la Chambre d'agriculture de l'Isère, et François Blanchu, responsable de la vie institutionnelle pour la MSA. Tout au long de ces prochains mois sur Couleur FM, nous consacrerons donc une partie de nos magazines et reportages sur cette thématique, un projet soutenu par la région Rhône-Alpes. Nous partons sur le terrain, capter les témoignages et les parcours de vie de ces hommes et de ces femmes qui vivent et respirent la nature. Portraits, débats, reportages et entretiens. Une série d'émissions que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site couleurfm.com.